Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts Luxury Insight en partenariat avec fashionnetwork.com. Aujourd'hui, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir Michel Campan, qui est un ami de longue date de Luxury Insight et un grand expert des enjeux digitaux liés à l'industrie du luxe. Michel est l'ancien directeur digital d'Hermès, de Lancôme et de Dior Couture. Il a ensuite créé une agence extrêmement précurseur, Same Same But Different, revendue depuis au groupe Dentsu. Michel va nous parler de l'évolution du management des marques de luxe et des nouveaux challenges aujourd'hui qu'ont à affronter les marques à la croisée des deux révolutions que sont la Chine et le digital. Bon podcast et bon voyage.
Michel Campan, bonjour.
Bonjour.
On a une question rituelle depuis le lancement des podcasts Luxury Insight Fashion Network, c'est de savoir un peu quel était le rêve de nos invités quand ils étaient enfants ou adolescents. Pour vous, quel était-il ?
Alors quand j'étais enfant, moi je viens du sud-ouest de la France, je viens de Toulouse. Mon rêve était tout simple, c'était quelqu'un de bien. C'était quelque chose qui me tenait à cœur et qui me portait. J'ai essayé de garder. En fait, c'est des petits fils comme ça de votre vie que vous essayez de garder pendant votre existence, qui disparaissent et que vous essayez de retrouver de temps en temps.
Et à l'école, vous étiez un élève attentif, bouillonnant, vous étiez comment ?
Alors mon père disait avec une jolie formule que j'étais dans la marge. J'étais pas vraiment là, ça m'intéressait pas. J'étais ni bon ni mauvais, quand je décidais d'être bon, j'étais bon, mais j'étais un peu ailleurs, je rêvais tout le temps et c'est vrai que la structure scolaire m'a jamais vraiment fasciné.
Vous êtes quand même allé assez loin justement dans le cursus scolaire.
Pas tellement, j'ai fait ce que j'aimais, en fait, ouais. Ce que j'essaye toujours de faire. Moi j'ai fait les beaux-arts et j'ai fait de l'histoire, j'ai fait une maîtrise d'histoire et j'ai fait l'IFM pour chapeauter l'ensemble. Je suis monté à Paris, un peu par hasard je suis rentré dans le secteur de la mode. Le secteur j'ai pas tellement aimé pour le côté paillettes, tralala, soirée, etc. Mais beaucoup pour la diversité des personnes qu'on y rencontrait.
Quand on a fait un cursus en histoire, une maîtrise d'histoire, qu'est-ce qui justement mène à la mode, au luxe ? Qu'est-ce qui vous a finalement ouvert les portes de ces métiers-là ?
Ouais, c'était vraiment un rêve de gamin qui arrive à Paris, enfin d'adolescent quand même, qui arrive à Paris, qui voit les grands immeubles, qui voit la place de la Concorde, et puis qui s'imagine dans une histoire qui est l'histoire de la France, avec ce qu'on a inventé depuis deux siècles, trois siècles, et en particulier le luxe. J'étais pas du tout destiné dans ce secteur, en termes de milieu social ou en termes de passion personnelle, mais... Ce qui m'a toujours un peu aidé, c'est d'essayer de porter un regard légèrement externe, un regard toujours un peu à la marge sur ce qui se passe à l'intérieur du cahier, ce qui se passe à l'intérieur de l'histoire.
Donc aller creuser dans les histoires, ce qui se passe un petit peu en dehors, c'est aussi ce que vous vouliez quand vous êtes orienté dans ce métier-là, essayer de comprendre ce qui se passait derrière les paillettes comme vous disiez tout à l'heure.
Disons qu'il y a deux choses, il y a l'anecdote et il y a l'histoire. Donc l'histoire c'est les grandes tendances, c'est des choses qui portent des structures qui font que nos sociétés évoluent, que les gens se comportent d'une manière différente du 19e siècle, que nos moyens de consommer, nos manières de découvrir le monde et de voyager ne sont pas les mêmes. Et les anecdotes, c'est les paillettes, c'est les choses qui font parler les gens pendant une saison. C'est tout ce qui, entre guillemets, fait la mode. C'est là où le luxe est différent de la mode.
Vous le disiez, vous avez fait l'IFM. Qu'est-ce qui vous a apporté cette formation ? Qu'est-ce que vous avez appris là-bas ?
En fait, j'ai appris énormément et beaucoup plus que n'importe quelle école parce que j'ai appris au fait de travailler avec d'autres personnes. Venant d'univers complètement différents, venant de grandes écoles, moi un petit Toulousain venant d'une école pas très prestigieuse, j'ai appris que je pouvais être pas plus couillon qu'eux.
Aujourd'hui, il y a un changement à l'IFM, il y a l'envie annoncée de devenir la plus grande école du monde en termes de mode. Vous, c'était déjà l'ambiance à l'époque ?
Et c'était pas la plus grande école du monde, ça revendiquait pas, on était une toute petite promo, je crois qu'on était 30 personnes à l'époque, c'était vraiment le tout début de l'IFM. Ouais. Il y avait vraiment ce côté école très particulière, hors du temps, avec des gens exceptionnels. Pas cette volonté de devenir une grande école internationale mondiale, qui est pourtant une très 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 bonne chose. Et donc moi je salue tous les efforts que fait l'IFM pour devenir la première école mondiale, et ils le sont déjà en termes de volume, mais c'est très important pour notre pays, c'est important pour notre industrie, que l'on rayonne à travers le monde.
Premier job à la sortie de l'IFM, c'était quoi ?
Alors, le vrai premier job, j'ai travaillé 6 mois dans une pausserie.
Où ça ?
une poterie qui s'appelait Almopelli, qui était une petite boutique au fin fond du sentier où fallait travailler la peau. Et ça a été un truc génial, génial, parce que je trouve que être avec de la vraie matière, c'est vraiment une découverte incroyable et affreux en même temps, parce que c'est des expériences très très difficiles. Vous allez, enfin, voilà, c'est très physique, etc. Je me suis dit bon, c'est pas fait pour moi.
Mais vous y êtes quoi exactement?
Ah ben, je m'occupais de maintenir des pots, de compter des pots, des stocks. C'était vraiment de la gestion. La peau, c'est complexe quand vous commencez à gérer un stock de pots. Mais j'ai eu ce rapport un peu par hasard avec la matière du cuir et qui est à la fois un rapport d'amour et un rapport de haine, parce que c'est super lourd à porter, c'est super compliqué, et à la fois c'est une matière formidable. Je sais qu'au bout de 6 mois, je me suis dit bah c'est pas fait pour moi, et je suis rentré dans la communication et je suis rentré dans le groupe des bébés. Rien à voir avec ce que je voulais faire au départ, mais je me suis toujours dit que je reviendrais au secteur, mais que j'avais besoin de trouver quelque chose qui convienne mieux à ce que je voulais faire dans ma vie, et pas forcément rentrer par la petite porte de la mode qui de temps en temps est peut-être un peu difficile.
Vous y êtes quoi chez DDB ?
J'étais consultant. J'ai commencé comme jeune consultant sur des sujets de communication financière, des rapports annuels, des sujets de développement commercial. À l'époque, il n'y avait pas d'Internet. À l'époque, on était en pur papier. Donc j'ai,
il y avait déjà les tableaux Excel ou pas encore ?
Il n'y avait pas encore les tableaux Excel. Et moi, j'ai connu même la première, la PAO, qui est arrivée dans l'agence. Avec les premiers ordinateurs, on regardait ça comme des sortes de trucs incroyables.
Oui, la techno qui modifie l'industrie, ça vous l'aviez vécu?
Je l'ai vu concrètement dans mon vrai premier job avec une boîte qui passe de 20 personnes à 5 personnes par l'arrivée de la PAO. Et en fait, la vraie plus-value de l'intelligence qui doit commencer à prendre sa valeur et pas uniquement le fait de vous vendre du matériel.
Oui. Cette intelligence, justement, vous l'avez nourrie d'abord en agence et puis après vous êtes rentré dans le luxe chez Hermès. Qu'est-ce que vous êtes allé faire chez Hermès et comment s'est passée cette transition entre le monde des agences et une grande maison historique du luxe?
Ce qui s'est passé entre temps, il y a eu une petite chose qui est arrivée dans ma vie, c'est 95 et c'est l'arrivée d'un machin qui faisait tac tac tac, qui était le digital. L'internet qui a commencé à arriver en France en 95. Et moi, dans mon métier d'agence, j'ai regardé ça, j'ai trouvé ça juste absolument génial. Et je suis allé voir ma patronne de l'époque et je lui ai dit wow, il faut absolument faire ça, c'est trop bien et tout. Et j'étais un peu cinglé déjà à l'époque. Et en gros, les gens de la profession ne comprenaient pas, disaient que c'était quelque chose qui restait de l'informatique, c'était pas quelque chose qui devait aller plus loin que l'informatique. Voilà. Donc j'ai monté ma première boîte en 95, qui était une première boîte de digital, où j'ai appris mon métier de digital pendant 5 ans, jusqu'au début des années 2000. En créant une agence de digital, en faisant des premiers sites. Et c'était vraiment préhistorique, monde des cavernes, mais commencer à faire les premiers codings, etc. C'était la naissance de la CNIL, la naissance des premiers rapports avec les emails et tout. Complètement bricolage et tout. Et en 99, il y a eu un vraiment moment particulier de ma vie avec une rencontre avec un monsieur exceptionnel qui s'appelait monsieur Jean-Luc Dumas et qui était président d'Hermès, gérant d'Hermès. Je suis resté 3 heures dans son bureau, on s'est assis par terre, j'ai parlé de ma ville de cœur, ma ville préférée au monde qui est Essaouira, et je suis resté 2 heures à parler de boîte en touya Essaouira. Lui, il me parlait de cuir. On a parlé de tout sauf du digital, et puis au bout de 2 heures, 3 heures, il m'a dit ben, viens chez Hermès, viens faire quelque chose. On en parlera, on va voir ce qu'on va faire, mais on va faire quelque chose.
Ça permet d'arriver sur quelque chose de complètement nouveau dans la maison, j'imagine. Mais avec un certain appui, quand monsieur Dumas vous dit viens pour monter ça, ça vous ouvre des portes?
Ouais, c'était lui qui savait qu'il fallait que quelque chose bouge. Les maisons avaient à l'époque, vous voyez, en 98, Lancôme allait lancer son premier site e-commerce. Les maisons sortaient des sites de vitrine. C'était encore une époque où on était dans l'idée du site vitrine. Voilà, en disant, bon ben voilà, on a une belle plaquette, on va la mettre en ligne, on va faire blablabla, blablabla, etc. Et moi, ce qui a été vraiment fascinant, c'est que là, j'ai démarré quand je suis rentré chez Hermès. En fait, j'étais tout seul, il n'y avait pas d'organisation, on a monté un comité de pilotage, etc. Mais ce qui était surtout, c'est que je voyais Monsieur Dumas 2 fois par semaine pour lui montrer du digital. On passait 2 heures ensemble. Et je lui montrais ce que je voyais, ce qui m'intéressait. C'était des moments ultra durs parce qu'il avait toujours des questions impossibles auxquelles je ne comprenais rien. Et il regardait toujours à la fois la vocation design d'un site, à quoi ça sert. voilà. Et puis le business model. Et il posait énormément de questions sur le business model. On était dans une époque où on sortait aussi de espèce de délire avec des bout.com, avec des investissements complètement colossaux, les premières vagues de digital absurdes. Et lui, il se posait fondamentalement la question de qu'est-ce qu'une maison de luxe doit faire sur ce média, comment on doit lui parler, etc. Et les discussions partaient beaucoup sur les voyageurs du virtuel, sur le fait que les gens passent du temps sur un média. Les gens savent peu, mais Monsieur Dumas était un immense innovateur. C'est lui qui a créé les premières présences dans les aéroports d'une marque de luxe. Donc Hermès était un des premiers à ouvrir des boutiques en aéroport. À l'époque aussi, tout le monde disait que c'était n'importe quoi. Et que c'était, ah mais pourquoi, ça va dévaloriser la maison, etc. Et lui, sa vision était très simple. C'était une vision de dire, à partir du moment où les gens passent du temps quelque part, c'est intéressant qu'on leur fasse une proposition. Ensuite, la proposition n'est pas forcément la même en fonction de l'endroit où on se trouve et voilà, dans le monde. Et on a appliqué la même logique au digital. C'est-à-dire qu'au bout de 6 mois, il a vraiment eu cet insight assez fort de me dire, voilà, mon métier, c'est de faire des beaux produits, les vendre dans des beaux magasins, donc tu vas me faire un beau magasin.
Vous, quand vous êtes arrivé dans une maison où il n'y avait pas de digital, finalement,
comment... Il y en avait beaucoup à l'époque. Hein.
Oui. Faut pas... Mais comment vous êtes imposé? J'imagine que la culture maison n'était pas toujours conciliable avec ce que vous avanciez. Donc, comment vous avez pu faire avancer ce projet-là?
Moi, je vais toujours chercher la racine des choses. Donc, en gros, mes premiers alliés chez Hermès ont toujours été les membres de la famille, les gens qui portaient la tradition de la maison. Parce qu'en fait, le métier digital, ou en particulier le métier e-commerce dans ce cas-là, c'est quelque chose que les maisons ont toujours fait. Au 19e siècle, quand la duchesse de je sais pas quoi commandait une selle à la maison Hermès à Paris, ben on envoyait un monsieur qui partait livrer, faire les essayages, etc. À l'époque, c'était Monsieur Pouèche qui m'avait dit, ben, on n'invente rien. En fait, on transforme. Et c'est cette manière de transformer est très importante parce que on s'adresse à des personnes plus larges, on va chercher des canaux différents, on peut être beaucoup plus international. Donc on a d'immenses facteurs de transformation, mais le fond du fond, la racine, et c'est pour ça que je reviens toujours à l'histoire, c'est la même chose. En fait, j'ai un beau produit, je le présente et je le propose à la découverte de gens, soit par des communautés, soit par de l'achat, mais c'est toujours le même principe.
Plonger dans la culture de la maison, plonger dans l'histoire pour adapter les nouveaux médias à cette histoire-là.
Ouais, fondamentalement, je pense qu'on ne fabrique rien sans racines. On ne fabrique rien sans comprendre les vraies racines. Si vous ne comprenez pas ce qu'a été le 19e siècle français, comment ça s'est passé, l'explosion de Paris, toute cette époque d'émergence où la France était un pays en très puissant, en forte croissance, et donc nos rapports aux clientèles étrangères, ce qui a fait la force d'un Vuitton, ce qui a fait la force d'un Hermès, ce qui a fait la force d'un Lancôme même dans les années 50. Si vous ne comprenez pas ça, vous restez dans le substrat. C'est-à-dire que vous restez toujours dans l'impression qu'on veut vous donner des choses.
Vous avez parlé de Lancôme, c'est la maison dans laquelle vous avez migré finalement après Hermès. Vous êtes ensuite passé chez Dior Couture. C'est cet univers du luxe dans différentes maisons. Vous êtes nourri de ces différentes cultures aussi. Vous avez vu les écarts de culture aussi entre les maisons.
Oh oui, bien sûr, oui. Les écarts de culture sont énormes. Elles ont toutes leurs avantages et leurs défauts. Hein. Il n'y a pas une maison géniale, il n'y a pas un truc génial. Ce qui est fort, c'est ce que vous faites, et ce que vous amenez dans votre pierre à l'édifice par rapport à une industrie ou par rapport à le rayonnement de notre pays ou par rapport à des... voilà. Mais c'est pas... souvent, les gens cherchent la maison idéale. Et une fois qu'ils trouvent la maison idéale, ils y restent pendant 40 ans. Voilà, et c'est fini. C'est pas ça qu'on cherche. Et ce qu'il faut chercher, c'est qu'est-ce que vous voulez amener.
L'histoire.
Moi, j'ai quitté Hermès au départ de Monsieur Dumas. C'était pour moi une évidence. J'ai eu l'honneur de travailler pour Odile Rougeol. Trouver une patronne qui a mon âge, qui est complètement dingue, qui veut faire des projets dans tous les sens et qui m'a balancé en 2 minutes en Chine en disant « on va ouvrir le premier site e-commerce d'une marque de luxe en Chine ». Bon, ça, c'est drôle. Voilà. Là, on est dans quelque chose, voilà, c'est du drôle. C'est pas du travailler pour faire comme les autres, voilà, c'est monter du projet.
Justement, les projets, vous êtes amusé, ça se voit dans le parcours que vous avez eu. Chez Lancôme, vous avez lancé un parfum site réseau social à l'époque qui s'appelait Second Life. Vous avez lancé du brand content chez Dior Couture avec la campagne Lady Noir. Ces choses-là, comment, avec du recul, vous les voyez? Et comment, aujourd'hui, ça a finalement mûri tous ces lancements de projets?
Tout ça va dans la même veine, en fait. Quand j'étais chez Lancôme, le social media n'existait pas. Il était en train de se créer. C'est-à-dire que, à l'époque, Facebook avait été à peine été géré par Lancôme US. Les choses commençaient à peine à s'organiser. On commençait à peine à parler des blogueurs. On a fait nos premières réunions blogueurs et tout. En parallèle, on avait une grosse feuille de route sur la Chine. Et ce qui était intéressant, c'est de voir à l'opposé ce pays complètement en explosion de développement et au tout démarrage de son digital, qui était complètement geek en termes de nature de pays, qui lui était déjà très en avance sur ses KOL, ses blogueurs, là, que ce soit le Japon, la Chine. Donc, l'Asie, moi, m'a beaucoup appris. L'idée à l'époque était de surfer sur des tendances. Et de structurer ces tendances pour faire que la vision de communication que peut avoir une entreprise ne se réduise pas à ce qu'elle a l'habitude de faire, mais qu'elle aille voir les nouveaux marchés, les nouvelles tendances. Parce que quand je démarre une nouvelle activité, quand je suis la première marque à faire par exemple un événement ou quelque chose avec Marion Cotillard sur du brand content, c'est sûr que ma résonance n'est pas la même que quand je suis la 20e marque. Au final, ce que je vois 10 ans plus tard, c'est qu'on est exactement dans ces tendances-là qui se sont juste toujours affermis et qui prennent une part plus importante des budgets communication, etc. Le point complexe, c'est pas la vision. Parce qu'on sait ce qui se passe. Tout le monde sait ce qui se passe. Tout le monde sait ce qui se passe en termes de disparition des médias traditionnels, augmentation des médias d'influence, difficulté avec les médias digitaux à trouver leur place en termes de économique. Donc on voit très très bien comment les choses se passent. La vraie difficulté, c'est comment péter les structures.
Pour le coup, c'est l'historique qui est présent.
Ben, c'est pas l'histoire, c'est, je dirais que, non, alors pour moi, c'est pas l'histoire. Ça, c'est la méta-histoire qu'on a rajoutée. On a l'histoire d'origine qui est le fondateur, pourquoi il l'a fait, comment, c'est quoi notre rapport à Paris quand je parle d'Hermès, c'est quoi notre rapport à Paris quand je parle de marques comme Christophe, là, qui sont vraiment des marques créées autour de cette révolution industrielle à Paris. Ça, c'est nécessaire. Mais derrière, les structures, quand elles grossissent, Jean-Louis Dumas avait un terme très très joli qui est il faut pas que, quand en parlant d'une entreprise, il ne faut pas grossir, il faut grandir. Et en fait, les marques, les maisons, les entreprises, quel que soit le secteur, quand elles commencent à devenir des entreprises de grande taille parce que elles ont fonctionné, elles commencent à fabriquer des silos, elles commencent à faire du gras. Elle commence à faire des structures qui fonctionnent entre elles-mêmes, des réunions pour faire des réunions, des reportings pour faire des reportings, etc., etc., qui n'ont aucun effet sur le marché, etc., et qui, avec des gens qui ne vont jamais voir un client, qui ne vont jamais dans une boutique, et voilà. Donc, c'est ça que le digital détruit. Le digital doit détruire ça. Si le digital lui-même devient une nouvelle forme de gras, ça devient un problème.
Après Dior Couture, vous êtes retourné vers l'entrepreneuriat en montant une nouvelle structure. Pourquoi vous avez eu envie de repartir en tant qu'entrepreneur?
Alors moi, c'est parti de quelque chose de très très simple. Quand j'étais client chez Lancôme, même chez Dior, j'avais des super partenaires, je travaillais vraiment bien avec eux, des très belles équipes externalisées, internalisées et tout. Mais le problème fondamental, c'est que j'avais des questions dans mes feuilles de route, dans mes projets basiques, hein, comme développer ta présence en Chine et tout, et il n'y avait personne. En même temps, sans être un super intello, mais en lisant 3 journaux par semaine, on s'aperçoit que y a quand même une explosion de la clientèle chinoise. Là, on est actuellement à 32% dans le secteur du luxe, on sera à 50% dans 10 ans. Donc mon insight, c'était de dire, il faut faire. Le sujet, c'est la coordination. Le sujet, c'est pas tellement d'être capable d'être gros en France ou gros en Chine, mais c'est d'être petit en France, petit en Chine, d'être très souple et d'être capable de coordonner entre les deux. Donc je suis parti à Shanghai, j'ai monté la première agence française à Shanghai qui s'appelait Samsung But Different. Et en fait, le couple Paris-Shanghai a très très bien fonctionné puisque très concrètement, ce qu'on faisait, c'était d'écouter les marques en France, d'être capable de réexpliquer à des équipes en Chine, même leurs équipes à elles, et puis de revenir expliquer en France ce qui se passait, pour faire en fait ce travail de pédagogie, pour que les gens comprennent. Parce que on parle de deux digitales qui sont complètement différents, qui fonctionnent pas à la même vitesse, qui n'ont pas les mêmes outils. Il n'y a rien de très complexe, mais il faut juste prendre le temps de l'expliquer. Et les gens sont dans les postes de direction, sont dans une telle pression en termes d'objectifs, de voilà. Et c'est déjà, ça les intéressait pas tellement à l'époque de savoir qu'est-ce que c'est un follower sur Facebook. Déjà, c'était complexe de les faire rentrer sur cette partie-là. En plus, arriver avec un Weibo, un WeChat et tout le tralala, c'était encore plus compliqué. Donc, c'était le pari et le succès de cette boîte, c'était vraiment cette structure de coordination entre Paris et la Chine.
Les échanges, justement, Paris-Chine, vous étiez aussi sur les US, mais voilà, cette discussion, vous l'avez vu évoluer dans les groupes avec lesquels vous avez travaillé. Vous avez vu que les mentalités ont avancé en une dizaine d'années. Qu'est-ce qui a fondamentalement changé sur ces questions de compréhension des...
Tout a changé. Ah ouais, franchement, tout a changé. Au début, tous mes potes me prenaient pour un cinglé en disant « Mais pourquoi la Chine ?» Et tout, juste parce que tu vas dans tes boutiques, tu vas voir que tu as des clients chinois. Après, si tu décides de pas leur parler, c'est pas grave. Tu peux décider de ne garder que des clients japonais ou des clients. Mais quand même, basiquement, quand tu as un pays d'1,4 milliard de personnes avec, je sais pas, 300 millions de personnes capables d'acheter des produits de luxe, que c'est le pays en plus fort développement et que ce pays-là a un digital entièrement nouveau et que ce pays n'a pas de médias classiques, il n'y a pas du tout les couvertures que nous, on a connues en France ou aux États-Unis. États-Unis avec des journaux, avec des groupes de presse et tout, c'est beaucoup plus hétérogène et c'est surtout beaucoup plus digital. On n'est pas en train de parler de 20% d'une distribution qui passe par le digital, on est en train de parler de 90%. Donc si votre équipe et vos structures ne sont pas 100% digital et ne pense pas digital depuis le départ. C'est-à-dire, la pensée digitale, c'est pas une pensée linéaire, c'est pas une pensée top-down, c'est pas une pensée dans laquelle j'ai un brief et une réponse. C'est une pensée de test and learn. C'est une pensée où je lance 10 projets, je les monitor, je regarde ce qui marche, je regarde ce qui marche pas, je coupe ce qui marche pas, j'investis plus dans ce qui marche. Mais ça veut dire d'être capable de travailler en permanence dans cette remise en question et de ne pas avoir de certitude.
Aujourd'hui, les grands groupes de luxe sont en tout cas, ont les moyens pour être structurés de ce côté-là. Est-ce qu'ils sont mûrs ou pas encore ?
C'est pas une question de moyens. C'est absolument pas une question de moyens, parce que, basiquement, ça coûte moins cher que le classique. C'est simplement une question de mental, d'une question de point de vue mental. Comment vous projetez votre activité ? Quand les gens ont peur de ces transformations, et on vit actuellement des transformations très très fortes qui vont avec des pans d'innovation incroyables qui arrivent, avec des clivages des sociétés très forts, avec des emprises des voyageurs encore plus forts. Donc on est dans une société qui ressemble à rien par rapport à il y a 10 ans, qui s'est vraiment transformée, qui, là où on disait il y a 10 ans les gens vont tous être sur leur portable, maintenant ils sont tous sur leur portable. And so what? Qu'est-ce que vous faites concrètement? Comment vous faites pour leur fabriquer des tunnels de communication pour parler avec eux? Comment vous faites quand ils arrivent dans votre boutique pour que vos vendeurs aient des outils pour travailler avec eux? Comment vous faites? Voilà. Toutes ces questions-là sont des questions qui, les marques ont complètement les moyens d'y répondre, mais souvent elles sont pétrifiées dans quelque chose de terrifiant qui s'appelle des silos.
Vous avez des souvenirs de choses qui ont été lancés, qui sentaient bon et finalement qui n'ont pas fonctionné dans le secteur?
Il y a des dizaines. La plupart du temps, quand on parle de test and learn, on est plus dans de l'activation. Donc, on est plus de dire, tiens, je vais faire telle offre, etc., etc. C'est plus la méthode qui manque. C'est-à-dire qu'en fait, les gens se projettent toujours sur... ils attendent le messie. Ils attendent la grande idée. Ils attendent le produit génial, le nouveau lancement. Tiens, j'ai fait ma nouvelle collection, tout le monde... Plus personne n'en a rien à faire de la nouvelle collection. Plus personne n'en a rien à faire du nouveau produit. Il y a tellement eu une multiplication des messages, multiplication des marques, multiplication des produits. Il y a eu tellement d'argent investi dans ce secteur. Et ce secteur est devenu un secteur de masse. C'est-à-dire que la fabrication des grands groupes, tout ça est très récent. Ça date d'il y a une trentaine d'années. Donc au final, les gens ont tellement investi sur ce sujet-là que le client final, il s'intéresse à plus rien. Et il faut revenir à une énorme simplicité. C'est qu'est-ce que je fais? C'est quoi le cœur de mon métier? Quand Jean-Louis Dumas me briefait en disant « Je fais des beaux produits, je les vends dans des beaux magasins, tu vas me faire un e-commerce », c'était il y a 19 ans. 19 ans, vous vous rendez compte? Mais il avait une vision pure de sa marque. Il n'était pas dans « ma marque est française, ma marque elle est dans la tradition », tout ça c'est des mots. Il était dans... je suis un vendeur, j'ai un magasin, je fabrique un beau produit, je le mets dans un beau magasin. Et ça, c'est absolument stratégique. Écoutez, la plupart des gens qui vous parlent des marques, ils vont vous parler de rêves, de storytelling, tout ça, c'est formidable. Mais leur vrai métier, quel est leur vrai métier? Est-ce qu'ils sont parfumeurs? Est-ce qu'ils sont dans la mode? C'est quoi leur vrai savoir-faire? Parce qu'on est maintenant en face de clients qui veulent comprendre leur savoir-faire. Est-ce que c'est du pipeau ou est-ce qu'il y a un vrai savoir-faire?
C'est pour ça qu'il y a cette attente de transparence.
Bien sûr.
Qu'on voit de plus en plus
forte. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, il n'y a plus aucune boîte ne peut mentir. Et tant mieux, c'est transparence, totale clarté, compréhension, sustainabilité, enfin gestion de l'environnement qui est fondamentale. C'est un des trucs qui va nous, enfin qui nous pend. On est totalement dans le secteur. On est un des secteurs qui pollue le plus, faut quand même le dire. Donc quels sont les grands groupes ou les grandes marques qui prennent le sujet vraiment à bras le cœur? Ben, il y en a quelques-uns, vous les connaissez comme moi. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'il a fallu, ça fait quoi, 10 ans? Qu'un groupe comme Kering est sur ce sujet, ça fait 10 ans que tout le monde le regarde en chien de faïence et qu'on n'a pas une parole globale en tant qu'industrie du luxe pour dire nous avons compris qu'il y a des choses qui se passent, nous avons compris que le client veut quelque chose de nouveau, nous avons compris qu'on ne peut plus avoir un rapport à la planète. Et voilà, quand j'ai commencé à faire de la peau et tout, vous pouvez voir le nombre de détergents et le nombre de produits qu'on met pour stabiliser une peau, c'est intéressant.
Sur l'évolution du digital, vous qui avez eu le regard Chine-Occident, qu'est-ce que vous voyez comme grosse différence? Est-ce qu'il y a un mouvement de conjonction qui est en train de se passer ou est-ce que ça reste complètement différent comme culture?
C'est des cultures différentes. C'est des cultures différentes, mais des cultures qui maintenant parlent beaucoup plus qu'elles ne parlaient avant, puisqu'il y a beaucoup plus d'échanges, beaucoup plus de touristes, beaucoup plus de clients voyageurs, etc. Il y a beaucoup plus d'interactions dans le monde. Le digital aussi a amené ça, bien sûr. Mais les cultures sont fondamentalement différentes. Et surtout, ce qui est en train de se passer, c'est un basculement de nos plaques tectoniques. On a vécu pendant un siècle sous domination américaine, et que j'utilise le mot domination volontairement, parce que l'air de rien, Facebook c'est pas français, Twitter c'est pas français, etc. Je suis pas franchouillard, mais quand je vois les gens me dire ah là là, c'est quoi ces trucs chinois et tout, oui, enfin tu utilises des outils américains, ça te dérange pas. Donc quelque part, on est en train de rééquilibrer entre les deux grandes plaques tectoniques, voilà. Et nous, entre les deux, on a quelques savoir-faire. On fabrique des armes, on fabrique des sacs. Moi, je trouve ça plus intéressant de m'occuper des sacs ou des parfums. Et c'est ces champions-là qu'on doit aider à travers le monde pour qu'ils trouvent leur clientèle de maintenant, qui sont basiquement des clientèles chinoises, hein, il faut pas, voilà, pour les 20 ans qui viennent, mais aussi les clientèles émergentes qui vont arriver, qui sont l'Afrique, qui sont, voilà, avec des potentiels formidables pour notre secteur. Mais
bon. On en parlait, vous avez lancer des projets, initier des idées. J'imagine aussi connu quelques revers sur des lancements. Les champs de prospection aujourd'hui, vous parliez de Weibo tout à l'heure, on voit que des acteurs comme Instagram sont en train d'évoluer pour changer leur modèle. Les champs de prospection, quand on est une marque, on peut aller vers quoi finalement pour mieux parler à son client, pour mieux communiquer avec lui?
Alors, c'est revenir au basique, très 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 basique. Déjà, partir un mois en Chine, regarder ce qui se passe, parce que là, vous verrez où va le monde pour les 20 ans qui viennent. C'est pas compliqué. La première chose que vous voyez, c'est la vitesse, la multiplication des messages. C'est-à-dire que là où j'étais sur 15 messages, je passe à 300 messages. C'est-à-dire qu'en gros, une pollution de l'esprit énorme qui se développe. Donc, quand il se développe un mouvement, il y a toujours un contre-mouvement. Donc, vous avez un autre mouvement de « j'ai besoin de plus de stabilité, plus de prise en charge de mon mental, plus, etc. etc. » Très intéressant pour les marques de luxe, parce que nous, c'est ce qu'on cherche. On cherche à créer ce temps et cette envie-là. Donc, comment on s'inscrit là-dedans? Vous voyez l'énorme tendance, l'énorme problème de la pollution, parce que vous arrivez dans un pays extrêmement pollué, mais qui est très très volontariste et qui fait beaucoup de choses. Donc là, vous avez une vraie question sur comment sortir de notre petit Paris ou de notre petite région parisienne pour se dire oui, en fait, la perception de mes clients sur ce que doit être une marque maintenant, c'est ça et ça comme valeur. Et puis surtout d'arriver à travailler en fluidité, d'arrêter de travailler en hiérarchie. Je ne crois plus depuis 10 ans aux hiérarchies, je ne crois plus depuis 10 ans à la structure pyramidale. Je crois au groupe, je crois à la souplesse, je crois au mode projet. Ça semble très très idiot, mais je pense que ce qui est intéressant, c'est d'avoir des projets et pas tellement de fabriquer des sortes de monuments de personnes qui ont peur. Moi, je suis très fasciné de temps en temps d'aller dans les entreprises et de voir à quel point les gens sont flippés dans leur travail quotidien et ont peur pas de dire « Ah, tiens, j'ai une idée ». de proposer quelque chose.
Faut arriver à décloisonner ça.
Ouais, complètement décloisonner. Faut arriver à faire confiance aux jeunes. Faut arriver à faire confiance. Vous savez, c'est vraiment un souci quand on voit dans les entreprises, toutes les structures qui sont gérées, soit que des hommes, pas de femmes, soit que des gens de plus de 50 ans comme moi, et pas de gens qui amènent de la sève et des idées nouvelles. Je dis pas qu'ils ont raison, mais au moins d'amener de l'énergie. On a besoin d'énergie. Une boîte, c'est des gens, c'est une marque, c'est des idées, mais c'est beaucoup d'énergie. C'est beaucoup de volonté de faire ensemble, en commun.
Vous faites encore du conseil pour les marques de luxe avec votre société qui s'appelle H2O.
Ouais.
C'est ce que vous transmettez comme message aussi au sein des marques, de libérer aussi la parole en interne.
Moi, j'ai pas trop de prétention voilà, je cherche pas à libérer la parole. Ce que je cherche juste à ce qu'on se parle comme des êtres humains. Et que, au-delà des mots, au-delà des choses qu'on pose par habitude, j'ai la chance de pouvoir faire ce que je veux, et ce qui est un luxe incroyable. Mais c'est surtout d'être capable de faire que, quand il y a une vision, un projet, qu'on a besoin de faire quelque chose, que les gens qui travaillent dedans soient heureux, basiquement, et que ce soit pas vécu comme étant quelque chose de traumatisant. Parce que j'ai trop vu ça dans les entreprises et je trouve que c'est absolument 90s et ça n'a aucun intérêt. Voilà. Quand vous parliez tout à l'heure d'Instagram et sur le changement de business model et tout, bah, ça fait 5 ans qu'on voit très bien, ils sont en train de copier WeChat, ils le disent, donc il n'y a pas de doute à ça. Mais basiquement, qu'une entreprise américaine leader aurait très bien pu dire moi je reste dans ma dans mon contrôle, je fais ça et tout, d'accepter d'aller regarder ce que font les autres, de copier, de se transformer, de changer tout le temps, pour moi c'est une marque d'intelligence. Voilà. Moi, j'aimerais bien voir ça dans notre secteur, que ce soit en mode ou en luxe, ou d'avoir des gens qui acceptent de remettre en question les habitudes et ce qu'on fait habituellement. À quoi sert un défilé à Paris? À quoi sert, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais de se poser les questions. À quoi sert de faire des collections? Est-ce que ça a encore un sens de faire des collections avec des rythmes, même là, ça rend fou les créateurs. Vous avez des créateurs qui sont obligés de faire 8, 10, 12 collections par an, ça n'a plus aucun sens. C'est absurde. Et ce que cherchent les gens, c'est plus ça. Ils veulent des niches, ils veulent des expériences, ils veulent découvrir une collection pour eux, une collection qui a été pensée pour leur communauté. Ils pensent en communauté. Donc, comment on peut se rapprocher d'eux? Comment on peut travailler avec des micro-blogueurs pour être capable de monter des choses avec eux? Ça, c'est assez facile. Il n'y a rien de... Une fois de plus, moi, je n'ai jamais l'impression d'inventer la roue. Hein. Je dis des choses très, très simples.
Mais c'est une remise à plat du modèle.
Voilà, c'est une remise à plat du modèle. Et si on ne remet pas à plat son modèle, on fait comme avant. Et comme on fait comme avant, le monde, c'est un cheval qui court. Donc, en fait, on n'arrive pas à le suivre.
Vous êtes entrepreneur, mais aussi investisseur, vous m'avez dit. Quel type d'entreprise vous intéresse? Quel modèle vous intéresse? Vous dites, oui, j'ai envie d'investir là-dedans. J'imagine qu'il faut qu'il y ait quand même une philosophie derrière, un projet, un concept qui vous séduise fortement.
Ouais, souvent, c'est les gens. Parce qu'en fait, je reviens sur le thème de l'humain, mais je pense qu'il faut pas qu'on l'oublie, parce que on sait tous qu'un business model, c'est un bout de papier, alors que la réalité, c'est l'aventure que va vivre la personne. En tant qu'entrepreneur, je sais que la vie d'une aventure. Je sais que la vie, c'est chaque matin que ça se construit. Et voilà, il y a des jours difficiles, il y a des jours géniaux. Et puis, c'est ça qui fait le sel de la vie. Non, beaucoup les personnes, beaucoup les choses. Après, des sujets que moi, je connais un peu, qui m'intéressent. Donc, c'est qu'est-ce que ça veut dire le digital dans les points de vente? Qu'est-ce que ça veut dire le digital et la data? Qu'est-ce que ça veut dire les conséquences du digital en termes de sclérose de notre monde, développement du stress, etc. Donc, là, je pense à Wellness Wave, qui une société que j'ai créée et que je ne gère plus, mais qui est gérée par un jeune directeur général très talentueux de 25 ans, justement. Donc, c'est vachement intéressant de voir concrètement des gens de cet âge à l'œuvre et leur manière de travailler.
Il a une approche différente de la vôtre?
Complètement. Complètement. Et c'est ça qui est super. C'est ça qui est très intéressant, parce que je pense qu'on est déformé dans nos modèles. On est déformé et qu'il faut avoir le courage de dire... moi, je fais partie d'un monde ancien où j'amène quelque chose d'ancien, donc je prends le meilleur de ce que j'amène, mais je ne cherche pas à imposer mon modèle à tout le monde, puisque ça peut fonctionner ou pas du tout fonctionner. Les boîtes qui cartonnent actuellement sont les boîtes qui ont l'ouverture managériale, qui ont cette capacité de dire, je suis capable de reprendre mon business model sur une page blanche.
C'est pas simple, mais beaucoup de travail et d'accompagnement.
En fait, c'est pas simple parce que souvent, ce sont des gros succès. Donc en fait, c'est pas simple quand la boîte fait un carton commercial et depuis des années avec un modèle. Quand vous avez des revendeurs qui vous vendent vos produits depuis des années, etc., dire d'un seul coup, je vais passer à des revendeurs digitaux et où je vais faire mon e-commerce, etc., vous avez une levée de bouclier et vous avez un interne de « Ah mais on a toujours fait comme ça, nanana ». Donc il faut énormément de leadership, énormément de volonté, énormément de vision long terme. Et en même temps, juste encore une petite anecdote de Monsieur Dumas. Monsieur Dumas utilisait un terme très joli sur le jeu du Mikado. C'est-à-dire que l'entreprise, c'est comme un Mikado. Vous savez, quand vous mettez toutes les pièces, il faut être capable de déplacer chaque élément avec beaucoup de finesse sans faire tomber l'ensemble. Donc tout le travail d'un président, c'est ça. Tout le travail d'un président ou d'un investisseur, c'est d'être capable de respecter l'écosystème existant, le business existant, et de faire déplacer chaque élément avec beaucoup de délicatesse sans faire tomber l'ensemble. Et c'est absolument pas ce que la plupart du temps les gens font, où ils balayent d'un coup de main le Mikado pour changer tout le monde, où on change complètement de business model, ou alors on ne change absolument rien et on fait attention de rien faire tomber parce que ça fonctionnait très bien comme ça.
Michel Campan, merci.
Merci à vous.
Merci à vous d'avoir écouté ce nouveau podcast Luxury Insight Fashion Network, et à très vite pour une nouvelle édition.